Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'empreinte de l'histoire. Cette semaine, nous allons nous intéresser à un lieu multiple et un personnage unique. Le personnage, c'est Robert Louis Stevenson et le lieu multiple, eh bien le parcours connu sous le nom de Chemin de Stevenson ou plus exactement, pour un nom plus technique, surtout pour les amateurs de grandes randonnées comme le GR70. Ce parcours que l'écrivain écossais alors âgé de 28 ans, parcourt avec une ânesse en 1878, débute au Puy-en-Velay, ou plus exactement quelques kilomètres plus loin, au Monastier-sur-Gazeille. On commence en Haute-Loire et ça se termine 220 kilomèters plus tard à Saint-Jean-du-Gard, qui, comme son nom l'indique, se situe dans le Gard. Au cours de ces 220 kilomètres, le marcheur, le randonneur, aura voyagé à travers la Haute-Loire, la Lozère et donc le Gard, avec au total un dénivelé positif, c'est-à-dire un chemin montant de 6 444 mètres, et un dénivelé négatif, c'est-à-dire en descente de 6 800 mètres. Cela peut paraître beaucoup, surtout pour les gens qui ne marchent pas, mais en réalité c'est un dénivelé très modéré et les marcheurs aguerris qui pratiquent les Pyrénées ou les Alpes sont confrontés à des dénivelés bien supérieurs. Car c'est là un des atouts du GR70, du chemin de Stevenson. C'est un chemin qui nécessite d'être dans une forme relative et qui peut se pratiquer allègrement en famille. Il faut en fait une dizaine de jours pour le faire de bout en bout et en une dizaine d'étapes, chacune d'une vingtaine de kilomètres en moyenne. Un de sénateurs que vous allez visiter les Cévennes, n'exagérons rien quand même, mais c'est un parcours qui permet l'évasion, les pauses tranquilles, l'émerveillement serein, la contemplation. Un parcours rendu possible par les nombreux, aujourd'hui, les nombreux loueurs d'ânes. Ces quadrupèdes, au caractère plus souple qu'on ne le croit, ajouteront une certaine forme d'authenticité au voyage pour ceux qui voudront justement réellement marcher dans les pas de Stevenson. En outre, ils amuseront les enfants et pourront porter vos sacs à dos sans pour autant les martyriser. Pour la totalité du trajet avec un âne, il faut compter entre 600 et 800 euros, sans oublier le fourrage, 4 à 5 euros selon les loueurs. Pour information, les ânes peuvent porter entre 30 et 40 kilos. Et attention, les loueurs n'aiment pas qu'on monte sur leurs ânes. Une fois en chemin, le fléchage est bien fait et surtout entretenu. Cependant, et y compris pour les aventuriers, je vous conseille quand même de vous munir d'une carte d'état-major. C'est bien une carte d'état-major, c'est pratique, ça ne bug pas, ça n'a pas besoin d'être rechargé, ça n'a pas besoin de couverture internet et ça ne se casse pas si on s'assoit dessus. Ajoutons la nécessité d'avoir des vêtements adéquats, chapeau compris, des gourdes, de bonnes chaussures, des pansements et de l'anti-moustique si on y va en été. Alors, à partir de là, vous êtes prêt pour l'aventure comme Robert Louis Stevenson. Enfin, pas tout à fait, car lui, c'était en 1878. Justement, quel était le contexte économique et politique du Massif central aux Cévennes à cette époque? Dans la seconde moitié du 19e siècle, le Languedoc et la moyenne montagne sont en pleine mutation. Une mutation lente, mais inexorable. L'olivier est concurrencé par l'arachide du Sénégal. La sériculture est à la fois menacée par les maladies et les importations qui explosent avec l'ouverture du canal de Suez en 1869. Sans oublier que les investissements délaissent les ateliers de tissage pour la mine, la vigne de plaine et le chemin de fer. De fait, entre 1856 et 1914, la Cévenne lozérienne perd 39% de sa population. Il y eut d'ailleurs pendant cette période deux crises de verre à soie. De plus, alors que l'essor de la châtaigne bat son plein au XIXe siècle, les châtaigneraies cévenoles sont frappées par la maladie de l'encre qui tua de très nombreux arbres en peu de temps. La maladie de l'encre est due en fait à un organisme proche du champignon. À cette crise, il faut ajouter l'ouverture massive de mines de charbon qui coïncidait, bien sûr, avec la révolution industrielle et qui entraîna un désintéressement progressif de la châtaigne et du châtaignier. Un déclin, il faut le souligner, facilité par le développement de la pomme de terre, plus facile à cultiver et qui remplace avantageusement la farine de châtaigne. Enfin, le phylloxéra s'attaqua aux vignes des basses Cévennes, sans oublier la migration vers les vallées minières comme la Grand-Combe. Toutefois, la désertification des campagnes ne touche pas toutes les couches sociales. Ce sont surtout les agriculteurs qui migrent vers les mines ou les villes. C'est donc un paysage cévenol en pleine mutation que va traverser le jeune Écossais avec son âne en 1878.
Pour tout renseignement, 09 53 49 85 50, contact@radioalliance-plus.fr.